cut your wrist too. I say that shit just clowning, dog. Come on, how fucked up is you? You got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's this shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other, but maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... It was you. Damn.
On a gardé le meilleur de la journée. Le 9h-13h avec Joe Bouvier.
Moment d'amitié, de complicité pour Ed Sheeran et Soprano dans les rues de Marseille. Les deux artistes se sont éclatés ce week-end sous le soleil de la cité phocéenne. Alors qu'il a fait escale à l'Orange Vélodrome de Marseille dans le cadre de sa grande tournée mondiale, Ed Sheeran a invité Soprano à monter sur scène et à venir entonner en total exclu son nouveau morceau devant son public à domicile. Soprano, artiste au grand cœur, a tenu à lui rendre l'appareil pour ce sympathique moment passé sur scène. Le rappeur marseillais a invité Ed Sheeran à faire un petit road trip à travers les rues de Marseille. Il n'a pas manqué de lui faire découvrir toutes les traditions locales. Dans une vidéo partagée sur Instagram, on peut voir Ed Sheeran et Soprano visiter Marseille en tuk-tuk, s'arrêter pour faire une petite partie de pétanque improvisée. Soprano n'a pas manqué de lui offrir un maillot officiel de l'Olympique de Marseille qu'il a aussitôt enfilé. La vidéo de ce joli road trip a beaucoup fait réagir les internautes et notamment la ville de Marseille qui l'a repartagée en mentionnant ceci. Journée type dans dans la plus belle ville du monde. Et Marseille influence le monde, a de son côté publié Benoît Payan, le maire de la deuxième ville de France. Ed Sheeran qui poursuit tranquillement la partie européenne de sa tournée mondiale. Il sera à Zurich au Let's Go Stadium le 2 août prochain.
C'était aujourd'hui
sur Rhône FM.
Le 9h,
13h,
pour être au courant de tout.
News People, ce matin, avec l'enfant de l'ancienne Spice Girl, Mel B, qui vient d'annoncer à la presse avoir fait son coming out transgenre. Angel, hein, qui vient de fêter ses 18 ans, est donc passée de fille à garçon, séparée depuis de nombreuses années maintenant. Melanie B et le célèbre acteur Eddie Murphy soutiennent totalement la démarche de leur enfant dans sa transition de genre. La relation entre Mel B et Eddie Murphy, entamée en 2006, s'était terminée par un conflit très médiatisé dans la presse, qui s'est soldé par un test ADN prouvant que c'était bien Eddie Murphy, le père de cet enfant. Mel B est trois fois maman, hein, de l'aîné Phoenix Brown, qui vit avec son premier ex-mari Jimmy Golzar. Il y a la cadette ensuite Madison Brown Belafonte avec son deuxième ex-mari Stephen Belafonte. Et puis de son côté, la star hollywoodienne Eddie Murphy partage sa vie avec la mannequin australienne Paige Butcher. Les deux tourterons d'ailleurs scellé leur union l'année dernière.
Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can't atone from a long prayer. Souls tied, intertwined by our pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living. But I know I can't resist it. Poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time.
Rhône FM.
When I'm walking down the street, I call your name. Inside my head, I go insane. Don't you know that it's really making me crazy? There were days when I went completely blind. No time to think, and I lost time. Won't believe what's happened to me lately. Cause every day it's the same day. Different faces, no names. Places I've never been before. And every day it's the same thing. Different faces, no names. Places I've never before. And I begin to wonder.
You're a sinner, but you told me you're a saint. Too fast, I tripped and lost my way. Can't believe what's happened to me lately.
Le best-of de la journée.
Pour ne rien manquer.
Le 9h.
13h. Avec Joe Bouvier.
On parle musique ce matin avec ce qui pourrait devenir l'un des hits de cet été 2025. Du moins, elle compte bien surenchérir après Espresso en 2024, devenu le carton de l'été. Sabrina Carpenter vient de nous dévoiler un tout nouveau titre qui s'appelle Mind Child et ça va cartonner à n'en pas louter. Comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, ça va cartonner puisqu'elle transforme tous ses morceaux en tubes, l'artiste américaine. Dans les paroles de Mindchild, Sabrina Carpenter cible les hommes immatures et beaucoup de fans pensent qu'elle fait référence à son ex-compagnon, l'acteur Barry Keoghan. Mindchild arrive quelques mois après la version deluxe de Short and Sweet, l'album qui a valu à Sabrina Carpenter 2 Grammy Awards en février dernier, celui du meilleur album pop vocal et celui de la meilleure performance pop solo pour le titre Espresso.
It's coming down on me. I'm about to fly. Rain on me, tsunami.
Hands up to the sky.
I'll be your galaxy.
I'm about to fly.
Devil in Versace. Did I win the lottery? Or am I gonna pay? Damn, you got me. Like Bitcoin and like Doge. I'm rich with you beside me. Cause you're not coin based. Sheesh. But you're perfectly dysfunctional. Oh, you crazy like my mama. Mama. Baby, oh, oh, you're just a little loco, like boats in Acapulco. I'm just riding the wave. Baby, oh, oh, you're just a little loco. Emotions like a yo-yo, but I love you that way, yeah. Girl, you're perfectly dysfunctional. You know you're crazy like my mama.
Avec ses meilleurs moments.
18h15, 19h, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur ON FM.
L'été pointe le bout de son nez, la neige fond par chez nous et les skieurs profitent des beaux jours pour peaufiner leurs conditions physiques, parfois dehors, souvent en salle. On évoquera la rigoureuse préparation des athlètes avec l'ancien footballeur Stéphane Grechting, coach chez Elite Ment. En deuxième partie d'émission, on ouvrira une page consacrée au VTT en ce jour de Raid et Volénard avec l'ancien coureur valaisan Alex Mauss. On parlera enfin de basket avec Romain Gaspo, entraîneur delphique, assistant de l'équipe de Suisse féminine qui participe à l'Euro dès mercredi. Eric Lehmann, secrétaire général de Suisse Basket et ancien coach d'Elios sera aussi avec nous en direct. Vous connaissez le menu, c'est Zone Mixte jusqu'à 19h.
RON FM, Zone Mixte
avec Hugo da Custodia.
Et vous le savez, vous pouvez interagir avec nous durant cette émission. Vos questions, vos remarques sont les bienvenues au 079 327 10 10. 079 327 10 10. On aurait pu parler de foot dans le premier entretien de cette émission, mais notre interlocuteur a tourné la page depuis longtemps, même s'il reste un observateur attentif du FC Sion, du ballon rond en général. Stéphane Grichting s'est reconverti avec succès dans le coaching et la préparation physique. Employé de la société Elitement, l'ancien international helvétique accompagne notamment des skieurs de très haut niveau. Valentin Marclay a rencontré Stéphane Grichting il y a quelques jours en marge du Sport Talent Charity Day, un événement dédié à la relève, et il a ramené cette interview.
Moi, c'est la 8e saison que je fais ce travail de préparateur physique et je suis vraiment extrêmement satisfait d'avoir réussi ma reconversion. C'est toujours intéressant de faire une belle carrière, mais après, la reconversion est souvent assez difficile, surtout après 19 ans où on est déconnecté un petit peu du monde du travail. Et là, c'est sûr que je suis vraiment satisfait et très fier de pouvoir grandir dans cette société d'Elitement.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier de préparateur physique? Parce que vous avez quand même, les préparateurs physiques, cette casquette un peu de grand méchant loup avant les saisons.
Oui, je pense qu'il est important maintenant, on n'est plus forcément les préparateurs physiques d'antan que j'ai connus aussi. On est beaucoup dans l'explication, dans la construction de la performance. Et ça, je crois que c'est les athlètes qui aiment bien ça. Nous, la grande différence, c'est vrai qu'on voit, on voit l'humain. Ça veut dire qu'on est toujours en coaching avec un athlète, donc on n'est pas dans du global et dans des groupes, donc ça fait vraiment une différence. On est vraiment beaucoup dans l'évaluation, on essaie d'aller chercher les petits degrés, les 10%, les petits centièmes qui font que au lieu d'être un joueur ou un athlète qu'on devient excellent. Et puis ça, c'est aussi un peu notre marque de fabrique, de pouvoir travailler dans la durée et d'avoir du temps pour travailler.
Souvent quand on est jeune sportif, on n'apprécie pas forcément la préparation physique. Ça a été votre cas aussi en début de carrière?
En début de carrière, oui, totalement. Oui, j'ai commencé à 17 ans à Sion. On avait Alberto Bigone avec ses deux assistants. C'était des préparateurs physiques vraiment à l'ancienne, très très durs, à l'italienne. Donc c'est sûr que c'était pas ma tasse de thé. Quand on arrivait le soir à la maison, on mangeait une soupe et on allait au lit direct se coucher parce qu'on était tellement cramés, comme on pourrait dire. Donc la préparation physique a quand même beaucoup évolué. Et puis tout au long de ma carrière aussi, j'ai vécu 10 ans en France avec le même préparateur physique, donc pour moi c'était vraiment quelque chose de où là j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, à comment le corps répond à une préparation. Et c'est vrai que après à Grasshopper, j'ai aussi deux préparateurs physiques qui étaient extrêmement intéressants dans leur approche, et je me suis aussi un peu inspiré de ça. Et c'est vrai que tout au long de mes années, j'ai de plus en plus aimé la préparation physique parce que je savais les bienfaits que ça pouvait m'apporter.
Pourtant, la préparation physique, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est indissociable.
C'est l'une des clés, oui, bien évidemment. Il y a le répertoire technique, il y a bien évidemment la préparation physique, il y a le mental, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent pour que la performance se construise. Ça, c'est bien évident que s'il manque des choses, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Donc on essaie vraiment de pouvoir mettre ça, les pièces du puzzle ensemble pour que la préparation physique, à la fin, permettent à l'athlète de pouvoir avoir son meilleur répertoire technique dans son sport et de pouvoir bénéficier de tous ses acquis.
Vous suivez beaucoup d'athlètes de différents sports. Est-ce que ça change entre disciplines, les techniques d'entraînement, les techniques de préparation?
Oui, alors il y a un tronc commun où dans le sensorimoteur, dans la stabilisation, dans cette coordination, ce gainage, ainsi de suite, c'est sûr qu'on pourrait l'impliquer à beaucoup de sports. Après, le calcul de la charge, bien évidemment, que si on a un golfeur ou si on a un skieur ou si on a quelqu'un qui fait du badminton, bien évidemment que les charges et les intensités sont différentes, le travail est différent, mais ça donne aussi des perspectives et puis de pouvoir progresser dans chaque sport et essayer d'apporter et tirer aussi des parallèles entre chaque sport pour pouvoir que l'athlète puisse être performant à la fin.
Vous suivez beaucoup de skieurs. Même entre les skieurs, ça change aussi, j'imagine, la préparation, la technique et puis la vitesse.
Totalement, exactement. Les angles ne sont pas les mêmes, les charges ne sont pas les mêmes. Si on a un slalomeur qui est très aérien et un descendeur qui est un petit peu plus profond, c'est sûr qu'on ne travaille pas forcément la même chose. Alors, il y a une partie de l'année où la prévention, c'est un petit peu la même, mais sinon, après, on est vraiment dans le transfert du ski et de la catégorie auquel il travaille. Et puis surtout, si on a un descendeur qui a 25 ans ou un descendeur qui a 17 ans, bien évidemment que la construction du plan n'est pas forcément aussi la même. Donc on doit vraiment s'adapter à l'âge physiologique aussi, et puis aux spécificités de chaque athlète.
Au football, il y a un préparateur physique qui vous suit pratiquement tous les jours. Au ski, c'est un tout petit peu différent à travers le monde. Il y a beaucoup de voyages. Est-ce que vous les suivez toujours pendant la saison ou vous avez vraiment ce rôle d'accompagnateur avant la saison ?
Alors, on a trois gros mois où les athlètes sont quasiment tous toujours en salle. Après, il y a l'arrivée des glaciers ou l'Amérique du Sud et l'hémisphère Sud, pardon, où ils vont certaines fois aller. Nous, on a la chance d'avoir une application, donc on les suit au quotidien, jour après jour. On a toujours cette qualité de suivi. Je pense que c'est très important. Donc après les trois mois, on ne peut pas s'arrêter là et dire bon, ben voilà, tu es prêt pour en mois de septembre pour aller faire Kitzbühel au mois de décembre ou janvier. Ce n'est pas du tout le cas. On fonctionne aussi par cycle. Après, quand il y a beaucoup de ski, ben bien évidemment que c'est plus la récupération, la prévention. Et puis, on refait des blocs de maintien, comme on peut dire, quand le programme le permet. Pour maintenir l'athlète à flot et puis pour faire des blocs et de revenir dans un bloc de condi pour pouvoir continuer à performer tout au long de la saison. Parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup d'athlètes qui performent jusqu'au mois de février et après février, mars, avril, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Et nous, on veut vraiment des athlètes qui puissent performer du premier jour sur la neige ou sur son sport jusqu'au dernier jour. Et c'est pour ça qu'on suit vraiment les athlètes 365 jours par année.
On parle de semaines, de mois de préparation. Comment vous faites pour ne pas les dégoûter, les sportifs, après quelques jours seulement ?
Alors, je pense que déjà au niveau de l'explication, quand on fait les bilans à la fin de saison et quand on fait la projection de l'année suivante, on explique beaucoup ce qu'on va faire. Souvent en collaboration, quand on a des athlètes qui sont un peu plus mûrs, on partage nos idées, on trouve les meilleures solutions. On n'est pas des dictateurs, on est vraiment des gens qui accompagnent les athlètes. Donc on est toujours dans la discussion. Quand on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on va faire, c'est aussi beaucoup plus facile de toujours être conscient de ça. Et puis surtout, trouver des choses ludiques. On n'est pas forcément obligé de soulever tous les jours 250 kilos. Il y a des parallèles qu'on peut trouver. Il y a beaucoup de multisports aussi. On essaie vraiment, que ce soit pour plein de sports, de trouver des parallèles pour faire de la condition physique sous d'autres formes aussi. Et ça, c'est vrai qu'on se démarque par rapport à ça. Et je pense que les athlètes, ils adorent quand on vraiment qu'ils sont au centre du projet et pas qu'on soit vraiment, qu'on dicte tout ce qu'on fait sans leur donner la parole. Voilà.
Aujourd'hui, les athlètes sont de plus en plus précoces. Pour certains, ils émergent beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. C'est aussi ça une difficulté de s'occuper de ces jeunes athlètes. C'est quand même différent qu'un athlète confirmé.
Complètement. C'est un autre travail, mais on sait le faire maintenant. On a beaucoup de recul aussi par rapport à ça. Le post-puberté, pré-puberté, puberté, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est vraiment un travail très fin et on arrive très, très facilement à le faire quand on est avec un seul athlète. C'est sûr que quand on a un groupe de 20 personnes, de 20 jeunes qui ont déjà commencé à grandir, il y a des filles, des garçons, ainsi de suite, c'est plus compliqué. Là, quand on est vraiment avec un athlète, c'est aussi beaucoup plus facile de pouvoir les accompagner dans ce long chemin de l'adolescence, préadolescence, adolescence, et puis jeune homme et homme. Et ça, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup d'expérience par rapport à ça. Et moi, j'ai très souvent, je suis encore des jeunes athlètes qui ont 12, 13 ans. Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème. Et on essaie vraiment de calculer tout ça pour que ça soit le plus adéquat possible.
Dernière question, Stéphane Grichting. Elite Ment a aujourd'hui une réputation, une légitimité sur la scène internationale. Qu'est-ce qui est si différent chez vous ?
Je crois qu'on est très très à l'écoute. On rentre dans des structures où nous, comme j'ai dit avant, on est dans l'individualisation. Vraiment très précise, donc c'est vrai que ça fait aussi une différence. Et puis aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que nous on collabore beaucoup avec les entraîneurs techniques, avec les préparateurs physiques des sélections ou des groupes. Donc ça fait aussi notre force, parce qu'on fait pas quelque chose caché dans notre coin. On partage, on essaie d'être à l'écoute et on essaie toujours de trouver le meilleur chemin pour l'athlète. Et ça fait quand même aussi une différence de pouvoir partager ces données et puis ces évaluations. Et avec l'expérience, bien évidemment, dans tous les sports qu'on a la chance de faire, ça apporte vraiment les derniers petits degrés qui permettent de construire au mieux une performance.
Stéphane Grichting avec Valentin Marclet. Sachez que le calendrier de la saison de ski alpin a été validé cette semaine. La reprise est fixée au dernier week-end d'octobre avec les traditionnels géants d'ouverture à Sölden. L'élite mondiale et plusieurs protégés de Stéphane Grichting et de la société Elite Men seront en Valais du 30 janvier au 1er février 2026 à l'occasion des épreuves de Crans-Montana, descente et super G dames et puis une descente masculine juste avant les JO. On en salive déjà. Musique sur Rhône FM, on revient juste après pour parler de VTT avec notre prochain invité, Alex Mousse.
If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once. I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away. So I'm gonna have some fun.
Thank you. Les plus belles soirées, les plus belles nuits,
c'est sur Rhône FM
avec les meilleurs moments de la journée. Rhône FM, Zone Mix avec Hugo da Custodia.
Andreas Zewald a fait honneur à son statut aujourd'hui. Multiple vainqueur du Grand Raid, l'Allemand s'est imposé sur le Raid Evo Lennart devant le Belge Franz Kless et le Suisse Hans-Weli Stauffer. Chez les dames, la Suissesse Irina Lützel-Schwab a remporté le grand parcours podium 100% helvétique complété par Mallory Barth et Stéphanie Zano. Et pour parler de VTT, puisque c'est de VTT qu'on va parler, vous l'aurez peut-être compris, ce dimanche on accueille un spécialiste, Alex Mauss. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Alex Mauss, ancien cycliste professionnel, ancien VTTiste, dernier vainqueur valaisan du Grand Raid, c'était en 2012. Un mot sur ce Raid Evo Lennart, puisque vous descendez juste des Volennes à l'instant avec un plateau aux allures de championnat du monde.
Non, c'était vraiment cool. Je pense un grand bravo aux organisateurs. Ils ont fait un grand boulot pour mettre en ordre ce parcours après ces chutes d'arbres hein, qui obstruaient le parcours. Et puis question pour la jeunesse, là, c'était le top. Beaucoup de jeunes enthousiastes. Non, c'était vraiment une journée réussie.
C'est une belle vitrine pour le Valais avec cette participation internationale. On sait que ces grands noms du VTT Marathon sont aussi là avec une idée bien précise, préparer les championnats du monde qui auront lieu pendant le Grand Raid.
C'est clair, le Raid Evo Lennart, c'est la course de préparation. Enfin, pour moi, ça a toujours été une des courses importantes de préparation. C'est un circuit qui est plaisant, qui est très physique. Et voilà, c'est en Valais. Il y a l'air du Valais pour les championnats du monde. C'est une bonne approche.
Alain Glacet nous avait glissé qu'Andreas Zewald et Urs Hubert, qui a terminé dans le top 10 aujourd'hui, que les deux allaient passer quelques semaines en Valais justement pour s'entraîner en vue du Grand Raid. C'est aussi une belle carte de visite. Ces gens se plaisent en Valais, les stars du marathon.
Oui, mais bien avant, on avait encore d'autres athlètes, des routiers qui sont venus aussi s'entraîner en Valais. L'année passée, des bikers aussi du côté de Chondolin. Voilà, c'est aussi un endroit qui est top, soit pour le bike, soit pour la route, le Valais, pour s'entraîner, se préparer.
Quand vous voyez des belles épreuves comme le Grand Raid, comme le Raid Evo Lennart dont vous avez fait la description tout à l'heure, ça vous manque pas un petit peu?
Non, pas du tout, parce que je suis toujours là un petit peu à suivre les athlètes à suivre la scène. Je pense que j'ai gagné mon dernier grade à 40 ans, j'avais assez donné pour les courses.
Vous qui avez un magasin de vélos, Alex, vous avez combien de vélos? Combien de vélos vous enfourchez? Route, VTT, d'autres?
Cyclocross l'hiver, route, VTT, e-bike, sportif, un petit peu de tout. Non, il faut être multi. J'ai toujours été multidiscipline et on y reste.
Alors un petit mot sur vous quand même, votre actualité. En avril dernier, vous étiez au Brésil avec le Team BMC en tant que directeur sportif. On a cru comprendre que la firme faisait face à des difficultés financières, que ça touchait tout le groupe, tant la production de vélos que les autres activités. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec BMC, Alex Mauss?
Malheureusement, j'ai dû mettre un peu en stand-by l'histoire, comme vous avez bien dit, un petit peu difficultés financières. Et voilà, alors pour l'instant, je vais me consacrer un petit peu à d'autres athlètes. Et puis, on verra pour l'avenir si je vais rester que protégé d'athlètes personnels ou on va réintégrer un autre team. On verra, toutes les portes sont ouvertes et une grande discussion pour l'instant.
Vous aviez été nommé en 2022, deux saisons pleines, 2023, 2024.